Vous écoutez On lit pour vous.
Le journal Le Devoir, édition des 18 et 19 juillet 2026, nous présente un dossier sur l'eau. Trois articles. L'eau du Québec. Au Québec, chaque personne consomme en moyenne 300 litres d'eau par jour. Au moment où la qualité des infrastructures en eau de la province inquiète, chaque goutte compte. Premier article, de l'or bleu dans les toilettes. Un texte de Caroline Montpetit. Combien d'eau consomme-t-on au Québec? Où en consomme-t-on le plus? Quelles municipalités se distinguent dans la province? Retour sur notre utilisation d'eau potable. Caroline Bertrand et Mathieu Lépine sont postés depuis plusieurs heures rue Villeray avec une pile de dépliants dans les mains. Leur mission? Sensibiliser les passants à la surconsommation d'eau à travers les patrouilles vertes et bleues organisées par le regroupement des écoquartiers de Montréal. Un jeune homme passe au pas de course, mais s'arrête pour discuter un instant. Oui, ses parents l'ont conscientisé à une certaine économie de l'eau, notamment à ne pas laisser couler l'eau en se brossant les dents. L'or bleu, comme on l'appelle, coule dans nos éviers, nos bains, nos toilettes. Inodore, incolore, presque invisible. Au Québec et à Montréal, on dépense l'eau sans compter, mais pour combien de temps? Citation. Au Québec, chaque citoyen consomme en moyenne 300 litres d'eau par jour, dit Mathieu Lépine, fin de citation, même si ce pourcentage compte aussi les pertes enregistrées par le réseau. C'est 50% de plus que le citoyen moyen du reste du Canada qui en consomme en moyenne 200 litres. Où va donc toute cette eau? À Montréal, selon le dépliant distribué par les patrouilles vertes, en moyenne 30% de l'eau, potable d'ailleurs, va dans les toilettes. 25% de celle-ci sert aux bains et aux douches. 25% va à la lessive, la vaisselle et l'entretien ménager. 5% va à l'alimentation et 15% va à l'utilisation extérieure, l'arrosage, la voiture, la piscine. Pour l'heure, les patrouilles vertes tentent davantage de sensibiliser les passants au règlement entourant l'arrosage automatique qui ne doit jamais se faire durant la journée. Le remplissage des piscines ne doit jamais se faire entre 6h et 20h, sauf au début de l'été. On insiste à faire quelques gestes anodins, comme de fermer l'eau dans la douche ou devant l'évier, lorsque c'est possible. On parle aussi de collecteurs d'eau de pluie, une pratique très marginale à Montréal. Encore 30% de pertes. Cet été, le bris du conduit relié au réservoir McTavish au centre-ville de Montréal, un simple tuyau de 84 pouces datant de 1984 a forcé la ville à demander à 1,3 million de ses résidents de réduire leur consommation d'eau. Et l'incident pourrait se répéter. On le sait, le réseau de canalisation de la ville de Montréal est désuet. Cela en fait en sorte qu'il perd encore 30% de l'eau qui y circule. L'entretien du réseau a été à ce point déficient que la réparation des conduites doit maintenant s'échelonner sur de nombreuses années. Dans son bilan sur l'usage de l'eau potable de 2024, la Ville de Montréal indiquait que l'indice des fuites des infrastructures, citation, était élevé pour le réseau de Pierrefonds et très élevé pour ceux de Lachine et Atwater Charles J. Desbayets, fin de citation. En 2024, on parlait de seulement 34 km de conduite principale et secondaire qui avaient été renouvelées. Et la conduite qui a cédé ce printemps, encore relativement récente, n'avait pas encore été réparée. Citation, ils ont fait une inspection préventive et ils ont remarqué qu'un des tuyaux était en état de détérioration avancée. Ils ont dû faire des travaux un peu d'urgence, même si ce n'était pas prévu. Le problème, c'est qu'il y a déjà un tuyau qui alimente le réservoir McTavish qui est en réparation. Ce dernier est un des plus importants réservoirs de la ville. Donc, il y a un goulot d'étranglement sur l'approvisionnement en eau de ce réservoir-là. Alors, on met un peu de pression sur les citoyens pour qu'ils essaient d'économiser l'eau. L'objectif de la ville, c'est de faire en sorte que la consommation d'eau en juillet soit la même qu'en mai. C'est un peu compliqué parce que juillet est le mois le plus chaud. Mais ça reste possible parce que Montréal est une des villes en Amérique du Nord qui consomme le plus d'eau. Donc, il y a quand même un surplus de consommation d'eau, explique Caroline Bertrand, fin de citation. Pour faire face à cette crise, la ville s'est donné l'objectif ambitieux d'économiser 100 millions de litres d'eau par jour. Pour y parvenir, la population est invitée à fermer le robinet lors du brossage des dents ou de la vaisselle, à n'arroser les plantes que tôt le matin ou en soirée, à éviter le lavage extérieur des terrasses, des entrées ou des véhicules, à raccourcir ses douches de quelques minutes et à récupérer l'eau de pluie pour l'arrosage des jardins.
Une ville sous la ville.
En fait, le réseau de circulation de l'eau à Montréal est presque une ville sous la ville. L'eau potable circule dans un réseau de 4000 km, soit à peu près la distance entre Montréal et Vancouver, apprend-on dans une vidéo explicative tournée par la Ville de Montréal sur le sujet. Chaque jour, il y circule 1,6 milliard de litres d'eau. Le réseau d'égouts fait, pour sa part, 5000 km de long. L'usine d'épuration des eaux de Montréal est la troisième plus grande installation de ce genre au monde et traite de 2,5 à 8 milliards de litres d'eau usée chaque jour. En 2028, la Ville de Montréal prévoit finalement, après beaucoup de retard, de moderniser ses installations pour filtrer encore davantage l'eau qui retourne au fleuve. Citation : L'eau du fleuve est de bonne qualité, ajoute Mathieu Lépine. Le problème, c'est que quand on déverse nos eaux dans le Saint-Laurent, il y a encore beaucoup de polluants. Fin de citation. Et comment sensibiliser à la surconsommation d'eau les citoyens d'une île entourée d'eau dont les usines d'épuration fonctionnent à plein régime jour et nuit? Et surtout, comment le faire au Québec où, contrairement à l'Ontario, l'eau est gratuite? Selon le site web de Blue Yeti, la facture d'eau moyenne en Ontario est d'environ 90,40 $ par mois. Mais le tarif de l'eau est déterminé par les municipalités locales et varie donc considérablement en fonction de votre emplacement et de la quantité utilisée. En France, la facture moyenne d'eau serait de 47 euros par mois, soit près de 75 $, avec encore des disparités importantes selon les régions. Caroline Bertrand, qui a de la famille en France, là où on paie pour sa consommation d'eau, voilà un facteur d'explication à la surconsommation d'eau des Québécois. Citation : Quand je vais chez mes grands-parents en France, ma mère me dit : Caroline, ne prends pas ta douche trop longtemps, parce qu'après, c'est mamie qui paye. On ne veut pas qu'elle paie beaucoup plus à cause de tes habitudes à la québécoise. Fin. De citation. Et fin de ce premier article du dossier sur l'eau, titré « De l'or bleu dans les toilettes », signé Caroline Monpetit et publié dans Le Devoir des 18 et 19 juillet 2026.
Et si l'ennui était nécessaire cet été? Un texte de Anne-Sophie Dufour, paru le 14 juillet 2026, dans Le Devoir. Parcs aquatiques, festivals, escapades en famille, les vacances riment souvent avec un horaire bien rempli. Pourtant, la plus précieuse des activités estivales pourrait être celle qui ne se planifie tout simplement pas. S'ennuyer. Un besoin fondamental qui doit être comblé loin des écrans, soulignent des expertes. On devient très inconfortable quand on s'ennuie. On a l'impression qu'on devrait être en train de faire quelque chose tout le temps. Mais la réalité, c'est que peu importe notre âge, on a tous besoin d'un peu d'ennui, explique Nafisa Ismail, professeure à l'école de psychologie et titulaire de la chaire de recherche sur le stress et la santé mentale de l'Université d'Ottawa. Les vacances d'été seraient d'ailleurs le moment idéal pour laisser place à ces moments de flottement, ajoute-t-elle. L'ennui, c'est essentiel. C'est la base de la créativité, affirme à son tour Linda Pagani, professeure titulaire à l'École de psychoéducation de l'Université de Montréal et chercheuse au Centre de recherche du CHU Sainte-Justine. D'un point de vue évolutif, rappelle-t-elle, c'est cet état qui a permis à l'humain d'inventer et de pousser sa pensée à un niveau supérieur. L'apprentissage de l'ennui commence dès l'enfance, même si se retrouver seul, sans distraction ni stimulation, demeure un défi en soi, souligne la psychoéducatrice Marie-Hélène Chalifour. L'ennui permet à l'enfant d'avoir accès à son imaginaire et de développer son monde intérieur, savoir ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas, ce dont il a envie, poursuit-elle, des fonctions qui sont essentielles à son développement et à l'adulte qu'il deviendra. L'ennui nourrit aussi l'autonomie, ajoute Nafisa Ismail. L'enfant apprend à se dire « Je suis capable d'occuper mon temps moi-même, je n'ai pas besoin que quelqu'un le fasse pour moi. » Les adultes aussi gagnent à s'ennuyer, surtout en vacances. C'est crucial pour la santé mentale et la motivation, souligne Madame Pagani, qui compare l'ennui à un embrayage pour l'esprit. Ce temps libre mental permet aussi de dénouer certains questionnements existentiels. Madame Ismail renchérit, s'ennuyer donne le temps de se distancier du stress quotidien et de se recentrer sur soi-même. Fuir l'ennui loin des écrans. Madame Pagani s'inquiète toutefois de la place de l'ennui dans un monde où les distractions sont infinies, à commencer par celles fournies par les écrans durant la période estivale. Elle craint notamment une baisse de l'intelligence fluide, soit la capacité à résoudre des problèmes, à créer, à s'adapter et à entreprendre des projets qui nous tiennent à cœur. À force d'éviter l'ennui, prévient-elle, on risque de former un jeune adulte qui n'est pas prêt pour la vie adulte parce qu'il n'est pas créatif. Le problème des écrans? Ils permettent de se désennuyer sans faire d'effort, explique Madame Chalifour. Or, c'est justement cet effort qui compte. Avant de plonger dans son imaginaire, l'enfant doit traverser un moment d'inconfort. Court-circuiter cette étape, en lui tendant une tablette ou en décidant pour lui, le prive d'un apprentissage clé. C'est plate. L'été, avec ses journées sans routine scolaire, est le moment idéal pour laisser l'ennui s'installer, estime Madame Pagani. Les parents, qui se sentent souvent très responsables du temps des enfants pendant les vacances, doivent leur laisser des moments libres, souligne Madame Ismail. Le repos de l'enfant passe justement par ces périodes d'ennui. Il n'y a donc rien d'alarmant si votre enfant trouve le temps long et passe 5 minutes sur le divan à répéter ses plates, explique Madame Chalifour. Le rôle du parent? Acquiescer. Je le sais que ce n'est pas le fun de se sentir comme ça, mais j'ai confiance que tu vas trouver quelque chose à faire. Avoir un projet continu, par exemple, un casse-tête ou dresser avec l'enfant une liste d'idées d'activités peut l'aider dans ses moments libres. Surtout, éviter de recourir trop rapidement aux écrans, rappelle Madame Pagani. Et pour les adultes? S'ennuyer ne veut pas dire ne rien faire, nuance Madame Pagani. Ce peut être une marche en forêt, sans téléphone ni distraction. C'est d'ailleurs dans la nature, insiste la chercheuse, que ce temps de réflexion porte le mieux ses fruits. On en fait assez, on en fait toujours assez. Puis, on en fait souvent trop, rappelle Madame Ismaël. De quoi laisser cet été quelques cases blanches dans le calendrier. C'était « Et si l'ennui était nécessaire cet été », un texte de Anne-Sophie Dufour, paru le 14 juillet 2026 dans Le Devoir.
La forêt des cœurs abîmés. Pierre Lapointe rattache et réinvente ses chefs-d'œuvre. Un texte de Sylvain Cormier, paru le 19 juin 2026 dans Le Devoir. Ça n'allait pas être autrement qu'extraordinaire, cette première de spectacle dont le titre en intercalait deux. Dans la forêt des cœurs abîmés, ça désignait de toute évidence à la fois La forêt des mal-aimés, l'album le plus célébré de la carrière de Pierre Lapointe, son deuxième, sommet atteint dès 2006, et 10 chansons démodées pour ceux qui ont le cœur abîmé. Son album le plus récent et le plus réussi des dernières années. On savait un peu à quel exploit s'attendre, la gérance ayant joyeusement sorti le chat du sac. Dans cette soirée de Pierre Lapointe à la Maison symphonique avec l'Orchestre métropolitain dirigé par Thomas Leduc-Moreau, il n'y aurait pas de piano. Ça mérite des majuscules. Pas de piano. Pierre Lapointe, auteur-compositeur-interprète dont l'instrument de création de base se divise en 88 notes noires et blanches et contient toutes ses mélodies, sans le dit instrument. Couteau sans lame, auquel il manque le manche, comme dit l'expression. L'orchestre aurait des tas de percussions, mais pas de batterie. Un bon nombre d'instruments à cordes, du violon à la harpe, mais pas de guitare. Vent, cuivres et bois, autant que vous voulez, mais pas de basse électrique. Un grand combo dans la tradition des orchestres de studio européens des années 1950 et 1960, pour tout dire. On aurait pu être avec les Michel Colombier, Francis Lay, Alain Goraguer, Paul Moria et leurs musiciens légendaires. Le travail fou. L'intention, Pierre Lapointe nous l'a expliqué à son arrivée sur scène, était, pour le contenu des deux albums interprétés intégralement, dans le même ordre que sur les disques d'origine, allait-on constater, de tout réarranger radicalement. Travail fou, confié à un dingue des arrangements, Antoine Graton. Mesurer la tâche. La forêt des mal-aimés avait été réalisé par Jean Massicotte, précisément parce qu'il était pianiste de grande réputation. Des musiciens pop-rock de haute volée avaient complété cette rencontre de pianistes. Antoine Graton partait de là, pour tout défaire et refaire, avec Pierre Lapointe, dans le seul rôle du chanteur marchant de bord en bord de la scène devant le bel orchestre et son chef. Les deux albums ont été fabuleusement servis par ces virtuoses de la réinvention. Et Pierre s'est concentré comme jamais sur ses rendus. Il nous avait prévenu pas d'histoire rigolote entre les pièces, pas de fun. Rien que les 10 démodés, alignés en première partie, et les 15 de la forêt d'abord explorée en 2006 pour la seconde. Et puis, voilà. Rien d'outré. Sinon, le costume de bébé en deuxième partie, symbole de la naissance de la forêt des mal-aimés il y a 20 ans. La voix n'en est pas moins demeurée prioritaire. Andy Williams chez Aznavour. Notre homme a-t-il jamais mieux chanté que ce jeudi soir au Franco? Chanson après chanson. Il faisait sa part de réinvention, en cela qu'il les améliorait, dans la justesse autant que le registre, dans la pureté du timbre autant que les variantes inspirées. C'était la force de l'affaire. Jamais la pointe n'était enterrée. Bien au contraire, il profitait pleinement de l'occasion fournie, du défi investi. Il était Andy Williams à la rencontre d'Aznavour, tout en étant plus que jamais lui-même. Par moments, on aurait dit des trames sonores de films. On reconnaissait tout, mais deux par deux rassemblés avaient du Morricone dans les sons. Qu'en est-il de la chance? Avaient des montées James Bondiennes. Les xylophones et les contrebasses donnaient à tous les visages des profils en gros plan. La harpe dans l'endomètre rebelle, un film d'amour. Les références au cinéma et aux orchestres des années 1960 étaient multiples, mais on ne perdait jamais, dans ces arrangements brillamment ramenés au présent, le répertoire exceptionnel de Pierre Lapointe. Souhaitons-nous l'ensemble de l'œuvre ainsi magnifiée. Tout est possible. La précédente tournée a été le plus souvent jouée avec deux pianistes pour seules accompagnatrices, et c'était parfait. Avec Pierre Lapointe, avec ou sans orchestre, avec ou sans piano, quel que soit le matériel, les limites sont encore inexplorées. C'était « La forêt des cœurs abîmés », Pierre Lapointe rattache et réinvente ses chefs-d'œuvre, un texte de Sylvain Cormier, paru le 19 juin 2026 dans Le Devoir.
Le grand dérèglement, un texte de Mathieu Fanière, paru le 25 mai 2026 dans Curium. Les écrans sont partout. Notre cerveau est-il adapté à ce nouveau mode de vie? Vous trouvez difficile de fermer TikTok ou d'arrêter votre session de gaming? Ce n'est pas un manque de volonté. Les réseaux sociaux et les jeux vidéo sont conçus pour vous accrocher. Leur mécanisme déclenche des décharges de dopamine, la molécule du plaisir immédiat. Le problème, notre cerveau finit par préférer ses bonheurs instantanés aux réussites qui demandent plus de temps et d'efforts. On est moins récompensé par la vie que par les écrans, résume le docteur Jean-François Chicoine, pédiatre et professeur à l'Université de Montréal. Le cerveau adolescent se développe jusqu'à l'âge de 25 ans. Il a plus de difficultés à freiner les impulsions, ce qui le rend plus sensible à ses mécanismes addictifs. Surcharge mentale. Lorsque les écrans occupent beaucoup de place dans notre quotidien, nos sens sont surstimulés et notre mémoire est bombardée d'informations. Résultat, notre cerveau n'arrive plus à planifier et à organiser efficacement les tâches. Notre capacité d'attention chute parce que notre mémoire est saturée. La dépendance aux écrans modifie même l'activité électrique du cerveau, indique une étude bulgare publiée en 2025. Les ondes θ augmentent, tandis que les ondes bêta diminuent. Traduction, le cortex frontal, la zone responsable de la concentration et de la prise de décision, tourne au ralenti. Gain et perte. Le problème, ce n'est pas seulement ce qu'on fait avec les écrans, mais aussi ce qu'on ne fait plus, souligne le docteur Jean-François Chicoine. Pour se développer, le cerveau a besoin de 4 piliers. Or, le numérique a tendance à gruger ces éléments.
1. Plus d'écran égale moins d'activité physique et de plein air. Le cerveau se retrouve ainsi privé de deux sources importantes de sérotonine et d'endorphine, deux neurotransmetteurs liés à la sensation de bien-être. 2. Plus d'écran égale moins de sommeil. La moitié des élèves du secondaire ne dorment pas suffisamment pendant la semaine. Il y a 10 ans, c'était le tiers. Dormir moins de 8 heures par nuit, c'est trop peu à cet âge. Les études montrent que les écrans sont responsables de ce manque de sommeil qui augmente les risques d'anxiété et de déconcentration. 3. Plus d'écran égale moins de sociabilisation. Oui, on peut sociabiliser sur nos écrans, mais pour notre cerveau, ce n'est pas tout à fait équivalent. Lors de nos interactions en personne, on attend notre tour pour parler. On décode les expressions faciales de l'autre, dit le docteur Jean-François Chicoine. Un manque de contact réel endort certains neurones du cerveau essentiels à l'empathie. On devient plus irritable, on a moins de tolérance au conflit. 4. Plus d'écran égale moins de lecture. La lecture muscle le développement du cerveau, surtout si l'activité se fait avec un livre ou un magazine papier, comme un numéro Curium, par exemple. Un cerveau qui lit moins, c'est un cerveau moins efficace. Bonne nouvelle. Les effets des écrans sur le cerveau ne sont pas irréversibles. En 2025, une étude autrichienne a démontré que réduire le temps d'écran pendant 3 semaines apportait de nombreux bienfaits, dont la diminution du stress et l'amélioration du sommeil. 3 conseils pour garder la tête froide. 1. Surveillez l'heure. Les écrans font perdre la notion du temps. Évitez de vous isoler, rideaux fermés et écouteurs sur les oreilles, au risque d'empirer ce sentiment de déconnexion. 2. Multipliez les pauses. Toutes les 20 minutes environ, regardez dehors, allez chercher un verre d'eau ou faites quelques jumping jacks. 3. Protégez votre sommeil. Dormir 8 à 10 heures par nuit, c'est le minimum. C'était Le Grand Dérèglement, un texte de Mathieu Fanière, paru le 25 mai 2026 dans Curium.